Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Incontestablement, l'image restera dans les annales. Pour la première fois, un chef d'État en exercice sera dans le box des accusés de la Cour pénale internationale. Je vous rappelle que le président kényan est accusé de crimes contre l'humanité pour son rôle présumé dans les violences post-électorales de 2007, des violences qui avaient fait plus de 1000 morts. Alors pour l'instant, Uhuru Kenyatta fait l'objet d'une simple citation à comparaître. L'audience qui se tient aujourd'hui et qui devrait s'ouvrir dans les prochaines minutes à La Haye doit permettre à la Cour d'écouter les différentes parties et de déterminer la suite de la procédure. Mais dans le camp du chef de l'État, on est plutôt confiant. La menace d'un procès semble peu à peu s'éloigner, d'autant que l'accusation elle-même a demandé un report du procès faute de preuves suffisantes. Alors que pensez-vous de la décision d'Uhuru Kenyatta? A-t-il raison finalement d'accepter cette comparution? Aurait-il dû peut-être la boycotter, d'autant que l'Union africaine refuse qu'un chef d'État en exercice soit poursuivi par la CPI? Et dites-nous, quel regard vous portez sur la crédibilité de cette instance judiciaire qui fait l'objet de nombreuses critiques sur le continent africain. 33 9 693 693 70 09 693 693 70. Si vous nous appelez de France, vos réactions sur Twitter et sur le compte Facebook d'Appel sur l'actualité. Sur Twitter, par exemple, il y a Christian qui nous dit « Quand on ne se reproche rien, on est prêt à affronter même le diable. Bravo Uhuru Kenyatta, Omar El Béchir devra également également limité. Bonjour Boubacar.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Ouagadougou, au Burkina Faso. Que vous inspire cette comparution aujourd'hui du président kényan à la CPI?
Sincèrement, quoi qu'on dise, je crois que c'est un bel exemple, c'est tout un symbole, cette comparution d'un chef d'État en exercice. Parce que l'État ne peut être au-dessus des lois. Tous autant que nous sommes des justiciables pour les actes et les propos que nous sommes susceptibles de poser. Alors nous devons pouvoir passer devant une justice, qu'elle soit nationale ou internationale. Je crois que ce à quoi il faut penser, ce sont les victimes. Elles attendent une seule chose, que les bourreaux soient jugés. Si le continent est incapable de juger, d'autres tribunaux sont compétents pour le faire,
oui,
à l'image de la CPI.
Alors vous dites qu'il y a d'autres tribunaux, en tout cas en Afrique, la Cour voulue par l'Union africaine, la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, elle n'est pas encore opérationnelle. On sait que concernant les relations entre la Cour et la CPI, eh bien on ne sait pas vraiment encore quelles dispositions seront prises entre ces deux institutions, ces deux instances. Vous disiez à l'instant, mais nul n'est au-dessus de la loi. Probablement, mais quand on est chef d'État, on doit bien pouvoir bénéficier de l'immunité.
Oui, il peut y avoir des immunités, mais ces immunités, là, comme par exemple l'immunité qui couvre les députés, ça c'est pour les députés, mais on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas jugés. On peut lever cette immunité et juger. On ne peut pas commettre des crimes pendant qu'on est au pouvoir et vouloir qu'on soit inquiété seulement après.
Simplement, il n'a pas commis, excusez-moi Aboubacar, il n'a pas commis les crimes quand il était au pouvoir. Il a commis les crimes pendant la campagne électorale 2007 de 2008. Vous comprenez que l'Union africaine demande l'immunité justement pour les chefs d'État en exercice?
Quoi? Quelle Union africaine? Une Union africaine qui est un rassemblement de chefs d'État qui ne cherche qu'à protéger l'intérêt de ses membres au détriment de ceux des peuples? Non, je crois que ce que demande l'Union africaine, là, c'est justement ce qu'on appelle une justice à deux vitesses. Pour des citoyens d'un même continent, on ne peut pas avoir une justice à deux vitesses. En réalité, ce sont surtout eux, les dirigeants qui sont susceptibles de passer à la trappe de la CPI qui s'inquiètent. Ceux qui sont justement des choses à se reprocher, comme on le dit. Si on n'a rien à se reprocher, on est justiciable, on va pour que la justice fasse son travail.
Je rappelle quand même que en Occident, les chefs d'État bénéficient de cette immunité pendant leur mandat. Et ce que dit l'Union africaine, ce n'est pas de permettre l'impunité, mais c'est au contraire de permettre l'immunité juste la durée du mandat. Ce n'est pas une immunité à vie, précisait l'Union africaine lorsqu'elle a fait cette requête auprès de la Cour pénale internationale. On va passer la parole à d'autres auditeurs. Merci Boubacar d'avoir lancé le débat de Ouagadougou. Abdoulaye, bonjour.
Oui, bonjour, mais bonjour à tous les auditeurs.
Vous nous appelez d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. On vous écoute.
Oui, Juan, merci. Je suis vraiment d'accord avec vous quand vous dites, vous nous évoquez l'Union africaine qui dit il faut donner aux chefs d'État en exercice leur immunité. Ça s'est fait partout. Ce n'est pas, c'est pas une denier de justice. Et moi, je suis d'accord avec l'Union africaine, d'autant plus que le chef d'État kenyan, c'est un chef d'État en exercice et qui est convoqué devant la CPI, mais ça met même l'État en péril. Mmh. Ça y va de la souveraineté de l'État kenyan. Et moi, je vais vous donner un exemple. Sous notre pic, nos États n'ont pas de lois fortes, n'ont pas de décisions fortes. Alors, quand vous prenez le cas, je donne un exemple, tout bête, l'exemple de la Côte d'Ivoire. Au Kenya encore, j'ai un vice-président. En Côte d'Ivoire, nous, on a un premier ministre qui n'est pas élu. C'est le président qui est élu. Le président est convoqué, par exemple, par la CPI. Mmh. À qui il lègue, comme il l'a fait au Rouge Kenyatta.
À qui il le lègue? Je n'ai pas la constitution ivoirienne en tête, mais probablement, s'il n'y a pas de vice-président, probablement au président de l'Assemblée nationale. Mais que les choses soient claires, Abdoulaye, à l'heure actuelle, Uhuru Kenyatta, aujourd'hui, hein, à cette heure-ci, Uhuru Kenyatta n'est pas chef d'État, puisqu'il a symboliquement, enfin plus que symboliquement, il a clairement délégué ses pouvoirs constitutionnels à son vice-président. Le temps de son séjour à la haie. Ça signifie qu'aujourd'hui, dans le camp du président kenyan, Uhuru Kenyatta comparaît à titre personnel et non qu'en tant que chef d'État. Mais enfin, on voit mal comment, si on lui pose la question, vous êtes le président du Kenya, tout à l'heure à la Cour pénale internationale, on voit mal le répondre non. Il est effectivement président du Kenya. Donc pour vous, il y a un péril. Le risque, c'est de mettre en péril l'État kenyan. On va donner la parole à Julie, qui nous a envoyé un courrier électronique. Et Julie est à Nairobi, justement, au Kenya. Bonjour Julie.
Bonjour Juan.
Bienvenue. Je vous lis. Vous dites c'est un manque de respect envers l'Afrique.
Oui, je considère ça comme un manque de respect envers l'Afrique. Non seulement envers le Kenya, mais envers l'Afrique. Parce que c'est un président et on ne doit pas ignorer ce fait-là. Donc le fait de le convoquer là, c'est vraiment un manque de respect envers l'Afrique. Mais aussi, je pense qu'il a pris la bonne décision en acceptant d'y aller. Même si je me dis aussi qu'il a peut-être reçu des menaces de la part de la CPI, il n'a pas eu le choix. Il a accepté de s'y rendre.
Il a accepté de s'y rendre depuis le début. Il accepte de coopérer avec la CPI, même si la CPI estime que la coopération est somme toute très très limitée. Elle attend davantage d'Uhuru Kenyatta et des autorités kenyanes. Elle réclame depuis des mois et des mois maintenant un certain nombre de documents, des documents qu'elle qualifie de cruciaux pour permettre justement d'établir clairement les liens entre le président Kenyatta et tous ceux qui ont commis les crimes durant la crise post-électorale. En même temps, Julie, vous êtes à Nairobi, ça ne vous a pas échappé qu'il y a eu tout de même 1000 morts durant cette crise post-électorale. Que peuvent penser ou que devraient penser les victimes si Uhuru Kenyatta ne serait pas poursuivi par la CPI?
Ok, moi je ne dis pas qu'on devrait le laisser tranquille. Okay. Ce que je dis, c'est qu'on devrait le laisser finir son mandat. Coupable ou non, il devrait répondre de ses actes après qu'il ait fini son mandat. Sinon, je redis ce que j'ai dit là, je considère ça comme un manque de respect, voilà.
Merci à vous Julie, merci d'écouter RFI à Nairobi. Kaloumé nous dit que Kenyatta vient de créer un précédent fâcheux pour les autres présidents en exercice. Abdoul considère que la CPI ne cible que les Africains. Où sont passés Bush, fils, Sarkozy, Blair, Cameron? Eux aussi doivent être dans le box de la CPI si réellement la Cour est impartiale. Voilà les réactions sur la page Facebook de l'émission. Urbain, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Lomé. Soyez le bienvenu, on vous écoute. Hein.
Oui, merci. Juan, l'initiative prise par le président kenyan aujourd'hui, c'est une très bonne initiative. Pourquoi? Parce que ça va permettre aux familles de ces victimes, puisque durant cette période, il y avait eu plus de 1200 morts. Mais ces familles de ces victimes, elles ne peuvent pas continuer à rester comme ça dans le noir. Donc l'initiative de ce président va permettre à ces familles-là de connaître la vérité et de savoir vraiment ce qui s'était passé durant cette période et de savoir qui a fait quoi durant cette période.
Donc pour vous, il n'y a pas d'acharnement de la Cour pénale internationale?
Non, il n'y a pas d'acharnement. D'ailleurs, je m'exprime même en faux suite à la demande faite par l'Union africaine. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'actuellement, l'Union africaine couvre le dictateur. Le peuple africain est victime de l'Union africaine.
Mais lorsque l'Union africaine dénonce effectivement un certain acharnement, je me souviens même des propos du, je crois que c'était le premier ministre éthiopien il y a maintenant un peu plus d'un an, qui avait accusé l'Union, enfin la Cour pénale africaine d'être raciste, car elle ne s'en prenait finalement qu'aux Africains. Urbain. On a perdu Urbain. Allô, mais on va essayer de le rappeler dans un instant. Amédée, bonjour.
Bonjour, monsieur Juan. Bonjour, les auditeurs de RFI.
Vous êtes dans la province de l'Équateur, en République démocratique du Congo. Est-ce que vous partagez le point de vue exprimé à l'instant par Urbain? C'est une bonne chose que Kenyatta aille devant la Cour pénale internationale. Ça permettra au moins de soulager d'une certaine façon les victimes.
Oui, Monsieur Kenyatta, c'est un excellent, c'est un président, un bon citoyen. Il a bien fait de se présenter seul à la Cour pénale internationale. Mais je demande à la Cour pénale internationale de classer sans suite ces dossiers pour inopportunité de poursuite. Il a fallu que le procureur de la Cour pénale internationale classe ces dossiers. Et s'il est aujourd'hui devant le juge, il faut que le juge puisse acquitter Monsieur Kenyatta pour absence des éléments constitutifs de faits qui nous sont reprochés.
Oui, enfin, pour l'instant, effectivement, c'est vrai, excusez-moi, la procureure estime qu'elle n'a pas suffisamment de preuves. En même temps, ça fait, je le disais tout à l'heure, hein, des mois et des mois qu'elle réclame un certain nombre de documents, comme des extraits bancaires, des déclarations d'impôts, des relevés téléphoniques, des actes de transfert de propriété. La procureure est convaincue que sur ces documents, elle aura les moyens de prouver les liens entre Kenyatta et les auteurs des violences de l'époque.
Non, mais M. Juan, non. C'est contradictoire. On accuse M. Kenyatta d'avoir commis des crimes sur le peuple kenyan, d'avoir tué le peuple kenyan. Mais curieusement, c'est le même peuple kenyan qui l'a élu comme son président, qui l'a reconnu lors des élections, la sanction des urnes comme chef de l'État. Alors, du fait qu'ils l'ont élu, c'est-à-dire qu'ils l'ont reconnu comme un bon citoyen.
Mais c'est
pourquoi
une...
ils devraient l'élire si c'est un tueur?
Mais c'est une partie... Amédée, c'est une partie du peuple qui a voté pour lui lors de l'élection présidentielle. Ce ne sont pas tous les Kenyans. Et personne ne nie l'existence des violences post-électorales. Personne ne nie ce millier de morts en quelques semaines.
Oui, personne ne nie ça, mais... Du fait que le peuple l'a reconnu comme un bon citoyen, même ce n'était pas tout le peuple, mais il a quand même gagné à la majorité. Et aujourd'hui, les chefs de l'État, je pense qu'on devrait éteindre d'office ces poursuites contre lui pour respect aux chefs d'État africains. Que la CPI, cet instrument de recolonisation, cesse ces manœuvres-là. Nous ne sommes pas d'accord avec cette façon-là.
Ouais, instrument...
Monsieur Kenyatta, c'est un chef d'État, on doit le respecter dans ce statut-là.
D'accord, instrument de recolonisation, dites-vous, Amédée. Sur la page Facebook de l'émission, Sosten nous dit « L'Afrique doit cesser de collaborer avec cet outil de l'impérialisme occidental ». Voilà, les propos sont quand même très durs à l'égard de la Cour pénale internationale. 33 9 693 693 70. Abdou, bonjour. Bienvenue, vous êtes à Dakar, où vous nous écoutez sur les 92 FM. Vous estimez-vous que le président aurait dû refuser de se rendre à La Haye?
Oui, je pense qu'il aurait dû refuser de se rendre à La Haye, parce que déjà, c'est un président de la République en exercice. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui a été élu par son peuple. Et déjà, la CPI, par respect déjà par rapport à ce peuple, ne devait pas convoquer le président. Parce qu'aujourd'hui, on a eu pas mal de présidents qui ont eu à commettre des crimes contre l'humanité, et à la fin de leur mandat, rien n'a été fait par rapport à eux. Donc pourquoi aujourd'hui choisir de suivre un président qui est en exercice?
Ouais.
Ce n'est pas normal.
Donc pour vous, il n'y a que ça qui vous choque, c'est le fait qu'il soit chef d'État et qu'on lui demande de se rendre devant des juges, qui plus est des juges internationaux. Est-ce que vous diriez, comme l'auditrice du Kenya, je retrouve sa petite fiche, Julie, qu'elle se sentait, voilà, que c'était un manque de respect pour l'Afrique?
Oui, exactement, c'est un manque de respect pour l'Afrique, et par rapport même à l'Union africaine, parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, j'entends
Voilà, l'Union africaine.
Alors attendez, excusez-moi Abdou, je ne sais pas si c'est vous avec votre combiné ou si vous rapprochez la bouche trop près du téléphone, le son sature. Décidément, on n'a pas de chance. Est-ce dû à la pluie battante aujourd'hui sur Paris ou pas? Mais enfin, les réseaux téléphones sont particulièrement mauvais. On règle ça hors antenne, Abdou, et on vous récupère évidemment si on a le temps. Alan, vous êtes kényan, vous nous appelez de Nairobi. Bonjour Alan.
Bonjour.
C'est une insulte aux Kenyans et aux Africains de demander au président Kenyatta de comparaître devant la CPI?
Je ne dirais jamais que c'est une insulte parce que tout d'abord, c'est M. Kenyatta, le président Kenyatta lui-même qui a décidé de se rendre à la haie. Et avant de partir, avant de quitter le pays, il a passé le pouvoir au vice-président. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il voulait comparaître en tant qu'un citoyen kenyan.
Et en même temps, personne ne peut imaginer véritablement que Uhuru Kenyatta est un simple citoyen aujourd'hui. Il est par la force des choses président de la République kenyane.
C'est vrai, mais en même temps, il faut savoir qu'il est accusé d'avoir commandité en fait la violence en 2007, malheureusement. Le premier procureur, Luis Ocampo, on a l'impression peut-être qu'il a vraiment gâché l'évidence. L'évidence, et c'est pourquoi M. Kenyatta a la confiance de se présenter à la haie, étant donné que Mme Bensouda lui-même a reconnu qu'elle n'a pas suffisamment de preuves pour avoir un cas très concret contre M. Kenyatta. Donc, moi, je pense qu'il a décidé de se présenter parce qu'il sait que...
Il est quasiment sûr effectivement de ne pas être poursuivi. En même temps, on verra ce que décidera et ce que décideront les juges. Il y a deux options sur la table. Soit l'Assemblée des États parties de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire les signataires du traité de Rome, les fondateurs de la Cour. Eh bien, soit cette Assemblée se contente tout simplement de prendre note et de dire, bah effectivement, le Kenya ne coopère pas suffisamment. Soit elle décide clairement de condamner publiquement le Kenya. Ce sera pour le coup considéré comme une sanction politique. En tout cas, les observateurs, ceux qui suivent de près ce dossier, estiment que si jamais le Kenya est condamné publiquement, ce ne sera qu'une petite tape sur les doigts et rien de bien méchant pour le pays. Valérie, vous êtes à Libreville. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Bienvenue sur l'antenne, on vous écoute.
Merci, bonjour à tous les auditeurs d'RFI. Au fait, ce que j'ai à dire, c'est déplorer le dysfonctionnement de la pseudo-Union africaine. Cette Union africaine n'est pas une union. On ne peut pas prendre une décision entre chef d'État, entre États, et puis il y a un qui se démarque et qui fait le contraire de ce que tous les autres auraient voulu. Vous voyez un peu, le président Kenya ne devrait pas en aucun cas se déplacer pour aller à la Cour pénale, même si, au fond, il se sent innocent.
Ouais. Et en même temps,
à la cour de l'innocenté.
Alors, c'est à qui de l'innocenté alors, si ce n'est pas la cour?
Alors, mais c'est pas mais cette cour est juge qui elle ne juge que les Africains. Cette cour est très mal placée pour innocenter un président en Afrique.
Ouais, vous remettez en cause, Valérie, la légitimité de la Cour pénale internationale. Nous allons à Conakry, Accra. Bonjour.
Bonjour, merci.
Bienvenue sur l'antenne, on vous écoute rapidement malheureusement.
Bon, je pense que c'est une décision noble et sage et tous les Africains doivent saluer cette décision. Autant plus que ça lance un message fort à tous les chefs d'État.
Ah bah décidément, quand un réseau passe bien ce matin, il coupe. Bon, les amis, je m'adresse aux techniciens, vous n'y êtes pour rien. En tout cas, merci à vous de m'avoir permis de présenter cette émission et merci à vous tous de nous avoir appelés. On s'excuse pour ces problèmes de téléphone. On va essayer de réparer tout cela. J'espère pour l'émission de Clairédon, tout ira bien dans quelques minutes. Laissez-moi, avant d'accueillir Clairédon, vous dire que demain, évidemment, nous attendons vos questions à la rédaction. Et puis, en deuxième partie, nous parlerons de cette bonne nouvelle pour les 13 000 fonctionnaires ivoiriens, puisque leur salaire va enfin augmenter. C'est une mesure que les syndicats attendaient depuis 20 ans. Mais attention, qui dit amélioration du pouvoir d'achat dit probablement augmentation des prix. Et là, c'est l'inquiétude qui domine pour l'instant auprès des fonctionnaires ivoiriens. On en parlera et ce sera l'occasion pour nous demain de lancer le débat sur les conditions de vie des fonctionnaires. Quelles sont leurs conditions de vie dans votre pays? Vos témoignages, vos commentaires, 33 9 693 693 70. Vous pouvez vous inscrire. s'inscrire dès maintenant. Merci.
Appel sur l'actualité vous a été présenté par Orange Monnaie.